Université Paris 1, Panthéon Sorbonne.
Président de cette université, et très heureux d'avoir l'occasion de dire quelques mots, mais rassurez-vous, très rapide, à l'ouverture de ce colloque. C'est toujours un grand plaisir pour le président de l'université que de voir et de pouvoir soutenir, même si c'est d'une manière très modérée du financement, de pouvoir soutenir les initiatives des collègues et notamment des initiatives qui mettent l'université en contact avec le monde extérieur. Nous avons eu la réputation pendant de très longues années de nous cantonner dans une tour d'ivoire, dans l'isolement de nos bâtiments. Et je crois que ceci est très largement terminé, que désormais l'université est très ouverte sur l'extérieur, sur la société civile, comme on dit, mais aussi la société économique et même, et c'est une évolution encore plus notable, vers nos amis militaires. J'en veux beaucoup de preuves, et notamment, et certains d'entre vous les connaissent et les ont pratiquées, le succès de nos masters professionnels dans lequel nous allions la théorie apportée par les universitaires et la pratique donnée par ceux qui participent à des activités autres. Mais je crois que ce qui est aussi important, c'est de voir que nos considérations et nos recherches théoriques s'appuient sur la pratique et la pratique sociale. Et que donc ce type de colloque permettant de faire le point sur ce qui se passe, quelle est la problématique d'activités nouvelles, me paraît particulièrement opportun. Nous savons tous que nous sommes dans un monde qui est devenu très différent, que le monde virtuel et le monde réel ont tendance à se rapprocher, que le monde virtuel, celui que l'on trouve sur Internet et ailleurs, prend une importance considérable et que parfois la frontière entre les deux s'estompe. Je pense d'ailleurs qu'un des problèmes, peut-être pas essentiel, mais de ce dont vous allez traiter, c'est-à-dire la cybercriminalité, c'est que parfois la frontière est très ténue. Je crois, mais c'est à propos bien banal, qu'il n'y a jamais eu sans doute dans l'histoire de l'humanité de moment où l'instrument de travail et l'instrument de jeu étaient le même. C'est-à-dire où l'ordinateur servait à la fois au travail, ce qui est normalement le cas, et au jeu, ce qui arrive de temps en temps, y compris pendant les heures de travail, mais pas trop, mais en tout cas chez soi. Et que donc la frontière entre ces activités est parfois extrêmement ténue lorsque le jeu, qui de plus en plus simule la vue réelle, ressemble à ce qui se passe dans la vie réelle. Je pense que dans un certain nombre de cas, je n'ai pas une interprétation personnelle de l'affaire Kerviel, mais vous en parlerez sans doute, la frontière était devenue très ténue. C'est-à-dire, je joue à faire fortune, et puis si j'ai perdu, j'efface et je recommence. Quand c'est le jeu, ça va. Quand c'est pas le jeu, c'est un tout petit peu différent, et ça se chiffre par quelques milliards de pertes qui, elles, ne sont pas virtuelles, encore que on pourrait se demander si, au bout du compte, elles ne sont pas quelque peu virtuelles, elles aussi. Bon. Donc, il y a cette frontière qui est devenue très ténue. Il y a aussi ce point qui me frappe, c'est que ce monde virtuel, ce réseau est mondial. Alors, je ne connais pas grand-chose à la question dont vous allez traiter, mais j'en vois quand même quelques exemples. D'abord, d'une criminalité quotidienne. J'ai reçu il y a quelques semaines, un appel désespéré au secours d'un collègue qui était, je suis retenu dans un pays d'Afrique, et il me faut $5,000 pour en sortir. Bon, sur le moment, comme je connais bien ce collègue et que je l'aime bien, j'étais un peu ému, donc je me suis demandé comment on allait faire. Et puis en y réfléchissant, il m'est apparu que ce n'était pas évident. Donc on a téléphoné au collègue qui était tranquillement chez lui, et le premier surpris d'apprendre cela. Mais des messages de ce genre, sans parler des milliards détenus dans tel ou tel pays dont on nous demande l'aide pour pouvoir les sortir et partager, c'est-à-dire cette forme-là de délinquance, elle est totalement quotidienne. Et puis, autre observation, si je connais un tout petit peu votre sujet, c'est parce que je m'intéresse au droit électoral, au contentieux électoral, et que là, nous avons affaire à quelque chose qui est devenu extrêmement délicat, c'est-à-dire comment on fait pour interdire, organiser, canaliser un certain nombre d'activités alors qu'on n'a aucune prise sur elles. C'est très bien d'interdire la diffusion d'un sondage d'opinion la veille ou l'avant-veille du scrutin. Comment vous faites quand le serveur qui le diffuse est quelque part à l'abri des montagnes rocheuses, que le centre, les questions étaient posées par un centre d'appel qui est en Tunisie et que les calculs ont été faits au fin fond du Pendjab? Où est-ce qu'on intervient pour dire « Ah non, ça c'est pas possible, vous pouvez pas diffuser ». Et la question de la campagne sur Internet et de savoir comment on organise, on régule ces campagnes-là est une des questions qui est devenue les plus épineuses du droit électoral et sur lequel, très franchement, on baisse parfois les bras un peu découragés sur le thème. Bah, de toute manière, une interdiction théorique n'aura aucune chance d'être effective. C'est dire que dans le sujet que vous traitez, il y a beaucoup de possibilités. Je remercie tous les participants. William me disait qu'il y a près d'une quarantaine qui sont inscrits, donc je salue ceux qui sont là ce matin, vous mon général, vous madame, vous monsieur, merci de nous apporter le regard d'un pays qui est assez en avance sur le plan de l'électronique et de la cyber, j'espère pas criminalité, mais de la cybercivilisation. Et je vous souhaite à tous deux agréables et fructueuses journées de travail. Je ne pourrai pas malheureusement rester avec vous, le lundi matin étant la journée de réunion des instances de l'université. Enfin, le lundi matin, les instances, et l'après-midi, les conseils. Et demain, je serai à Lille pour d'autres raisons. Donc, je veux simplement vous souhaiter la bienvenue, ne pas prolonger ces mots protocolaires, puisque ce n'est pas ça que vous attendez. Remercier ceux qui sont là comme intervenants, comme participants, et remercier William Gilles qui a monté cette entreprise. Et je lui passe maintenant la parole pour la suite de la journée.
Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est toujours un honneur de vous accueillir, d'autant plus que j'ai eu l'honneur de commencer ma jeune carrière à vos côtés, notamment au Conseil constitutionnel. Et c'est vrai que ça m'avait particulièrement marqué pour les années à venir. Et donc, c'est un grand honneur de vous retrouver quelques années plus tard. De toute façon, nous côtoyons régulièrement. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, chers étudiants, mesdames, messieurs, la cybercriminalité est en passe de devenir un enjeu déterminant du monde et de la géostratégie mondiale et de la sécurité intérieure des États. En effet, au cours des derniers mois, les cyberattaques touchant les plus grandes institutions à l'échelle planétaire se sont multipliées. Ont ainsi été attaqués le FMI, la CIA ou encore le ministère des Finances en France. Chaque jour, les sites internet des institutions françaises et internationales subissent des attaques régulières. Le secteur privé n'est pas non plus épargné, comme le montrent les attaques contre Sony ou encore RSA Security. Sont ainsi subtilisés les numéros de cartes bancaires, vous en avez parlé, potentiellement, ça aurait pu arriver, ainsi que les données confidentielles. Les coûts financiers engendrés par ces cyberattaques sont élevés. Selon une étude réalisée au Royaume-Uni, les attaques informatiques génèrent une perte de 32 milliards d'euros chaque année à l'économie britannique, dont 21 milliards d'euros supportés par les entreprises. Au regard des enjeux soulevés par la cybercriminalité, les cybermenaces et les cyberfraudes, le Pentagone a indiqué début juin que les cyberattaques peuvent constituer des actes de guerre qui justifient des représailles militaires classiques. Une telle réaction permet de mesurer l'importance des enjeux liés à la cybercriminalité. Mais elle révèle en même temps que les réponses intermédiaires aux actes de guerre sont insuffisantes. En effet, la cybercriminalité, les cyberattaques, les cybermenaces et les cyberfraudes présentent des formes variées et graduées qui appellent des réponses adéquates. Ainsi, des réponses juridiques, économiques, sociales et techniques s'imposent-elles. D'où la nécessité de développer des journées de réflexion, comme nous le faisons aujourd'hui à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, dans le cadre de ce colloque, et demain dans nos futurs travaux dans ce domaine. Ces initiatives permettent à l'ensemble des acteurs concernés de se rencontrer. Dans ce prolongement, il est nécessaire également de développer des groupes de réflexion. En la matière, l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et IMODEV se propose d'accueillir en son sein des groupes de réflexion, des colloques, des journées d'études sur la cybercriminalité. Nous invitons toutes les personnes intéressées, tant en France qu'à l'étranger, à nous y rejoindre, qu'ils soient juristes, économistes, historiens, sociologues ou informaticiens. Car la réponse à un problème de cette envergure ne peut être que pluridisciplinaire. Cette approche reflète parfaitement l'un des enjeux de ce colloque, qui consiste à réunir l'ensemble des disciplines concernées par la problématique de la cybercriminalité. Ces questions présentent en effet un caractère multidimensionnel qu'aucune discipline à elle seule ne serait à même d'appréhender de manière complète, quand bien même il s'agit du droit ou de l'économie. À la manière d'Edgar Morin, qui invite à relier les connaissances, il importe en la matière de lier les disciplines. Le programme de nos travaux permet ainsi d'associer à notre réflexion aussi bien des juristes, des économistes, des informaticiens que des historiens et des sociologues. L'ampleur des enjeux nous invite à faire intervenir des représentants des institutions nationales et internationales, ainsi que ceux du monde de l'entreprise. Si une approche pluridisciplinaire s'imposait, il était tout aussi nécessaire d'avoir une approche internationale. Autrement dit, il était nécessaire de réunir à la fois des acteurs français et étrangers, dans la mesure où cette problématique ne concerne pas un seul pays dans le monde. Nous avons ainsi fait l'honneur d'intervenir dans le cadre de ce colloque des intervenants venant de l'OCDE, du Canada, du Japon, de Russie, du Luxembourg et bien sûr de France. Je remercie également dans l'assistance les participants qui sont venus du Brésil, du Sénégal, de Guinée, du Maroc, de Tunisie pour suivre nos travaux. Enfin, parce que la problématique et les enjeux de la cybercriminalité appellent une approche globale, il était également nécessaire d'associer à la fois des universitaires, des hauts fonctionnaires et des représentants du monde de l'entreprise. La densité des questions traitées et des échanges à venir imposait donc que ces travaux se déroulent sur deux journées, que nous avons choisi d'organiser sur deux sites. L'un à l'amphithéâtre Gaston Bachelard en Sorbonne, afin de représenter l'université parisien Panthéon-Sorbonne, et l'autre au centre Michelet, du ministère de la Justice et des Libertés, et je remercie le ministre de la Justice et des Libertés d'avoir accepté de nous accorder son haut patronage. Je saisis également cette occasion pour remercier l'ensemble des partenaires de l'INMODEV, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le ministère de la Justice et des Libertés, la documentation française et la DILA, FFE, les éditions LexisNexis, ainsi que les collaborateurs de l'INMODEV et les étudiants de notre master, le master Droit du numérique, administration, entreprise. Dans le cadre de la première journée, seront traitées des thématiques portant sur la perception de la notion de la cybercriminalité dans le monde, ainsi que les dispositifs juridiques et les enjeux économiques et sociaux liés à cette problématique. La seconde journée sera consacrée aux acteurs de la lutte contre la cybercriminalité et aux pratiques développées dans ce domaine. Au final, ce sont donc deux journées qui, je l'espère, seront riches d'enseignements, de rencontres et d'échanges qui vous attendent, car, comme vous l'a été dit tout à l'heure par le président Collière, ce sont près 40 intervenants qui vous attendent et plus de 200 participants sur les deux jours. La réflexion qui en sera ici trouvera son prolongement avec la publication des actes de ce colloque aux éditions IMODEV que nous avons développé afin de publier nos travaux, comme nous avons publié notre précédent colloque, Vie privée, vie publique à l'ère du numérique, dans la revue de l'Institut du monde et du développement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon colloque, à vous remercier tous pour votre participation, ainsi que le président Collière de nous avoir fait l'honneur de venir ouvrir ce colloque. Donc, bonne journée.